tout à l'heure en entrant chez vous, notamment un masque très impressionnant.
Une coiffe,
pas un masque.
Alors c'est une coiffe de cérémonie.
Alors c'est une coiffe ample avec des plumes rouges, vives.
Vertes, jaunes,
c'est très beau. Ah oui, oui. comment décrire bleu. Comment décrire cette coiffe?
Alors, ça s'appelle un holoc. Mm-hmm. Donc, c'est une coiffe de cérémonie pour les débutants.
D'accord.
De la première fois qu'ils passent le marraquet, ils ont cette coiffe-là. Je ne sais pas, elle fait bien 1m50, 1m80 de hauteur, hein, je pense. Mm-hmm. Et en largeur, elle doit faire à peu près autant. Donc, c'est une coiffe qui est très ample. Il y a, je crois, une douzaine d'espèces d'oiseaux différentes avec les plumes. Donc, le rouge, c'est le hara. Mais le bleu, c'est du hara aussi. Mais il y a de l'aigle. Alors, c'est des plumes, par exemple. Je sais que c'est le cou de l'aigle. Ces plumes-là sont très difficiles à obtenir. Et donc, après chaque cérémonie, ils démontent la coiffe pour récupérer les plumes. Et ils les mettent dans une boîte qu'ils gardent pour la cérémonie suivante. Et puis, comme on est avec un micro et c'est la radio, on va écouter la coiffe. Parce que ici, vous avez des élytres d'insectes.
D'accord. Rappelez-nous, les élytres, ce sont les...
C'est ce qui est au-dessus des ailes. C'est comme la coccinelle.
Ah, c'est ce qui permet à l'insecte de grillonner, par exemple. Un grillon de...
Ah, je sais pas. Non, c'est ce qui protège les ailes. Par exemple, la coccinelle, quand elle vole, elle ouvre ses élytres et puis il y a les ailes
d'accord.
qui sortent.
Ouais. Ah oui, donc ce sont des gros insectes pour le coup. On les
alors,
imagine
gros, ici, là-bas, ils sont ridicules. Hein.
D'accord.
Ah oui, j'ai vu des libellules qui faisaient cette taille-là, donc ça fait presque 20
cm. 20 cm, des libellules de 20 cm, ouais. Ça doit être assez impressionnant.
Ouais. Et donc, quand ils ont cette coiffe, ils dansent de 18h à 6h du matin, enfin du coucher du soleil au lever du soleil,
d'accord.
pendant la pleine lune.
Et alors, là, pour le coup, ce n'est qu'une personne qui a cette coiffe.
Oui, ils ont tous une coiffe comme ça.
Tous avec une coiffe.
Non, ceux qui sont...
Ah oui.
Ça, c'est la cérémonie.
D'accord.
Donc, ils sont une dizaine. Ils ont les écharpes en perles qui sont là. Mm-hmm. Ces bracelets, c'est les chevillères.
D'accord.
Parce qu'ils dansent. Hein. Donc, mm-hmm. toute la nuit, en fait, ils tapent du pied comme ça. Et ils sont sur une planche sous laquelle ils ont creusé un fossé. Et ça fait une caisse de résonance.
Mm-hmm.
C'est un tambour.
D'accord.
Et donc, ils tapent du pied sur le tambour. Et puis, ils ont les ceintures que vous voyez là. Ils ont 20 kilos de bijoux. Voilà. 20 kilos. Et donc, ils vont danser 12 heures. Avec une température qui avoisine les 28 degrés.
Oh. Une danse qui est aussi une transe, qui doit se transformer
en transe, parce qu'en fait, il faut qu'ils boivent. Mmh. Et donc, on leur fait boire de l'alcool de manioc. Mmh. Et puis, ils sont en hyperventilation, parce que là, derrière, il y a une flûte. Et donc, toute la nuit, en fait, ils vont appeler un esprit qui vient du Brésil. Et donc, ils vont souffler dans cette flûte.
Mmh.
Donc, ils sont en train de danser, ils tiennent la flûte, ils soufflent, et ils vont se retrouver en hyperventilation. Et donc, ils vont entrer en transe. Ce qui va leur permettre de tenir, parce qu'ils vont quand même danser 12 heures comme ça. Et devant eux, il y a des personnes qui viennent pour les éventer avec des immenses éventails. Il y en a un à côté, on le verra tout à l'heure. Et donc, ils les éventent comme ça. Et puis, au petit matin, ils se déshabillent, ils enlèvent tout ça. Et là, on va va débuter la partie la plus difficile de la cérémonie, parce que jusque-là, c'était de la rigolade. C'est la vannerie qu'on voit là-haut, qui s'appelle un kunana. Et donc, par exemple, chaque TPM, le TPM, c'est le candidat, quoi, il va fabriquer son kunana. Donc, c'est une vannerie, là, on la voit avec des plumes autour.
Mm-hmm.
Et à l'intérieur, on ne les voit plus parce qu'elles sont parties. Il y avait entre 50 et 100 fourmis qui étaient coincées à l'intérieur, mais pas les fourmis françaises de Combourg ou de Dole de Bretagne, hein, c'est des grosses fourmis. On dit que la piqûre, c'est l'équivalent d'une balle de fusil. Et eux, on va leur imposer ça du haut du corps jusqu'en bas, des deux côtés, et ils ne doivent pas broncher. Et effectivement, ils ne bronchent pas. Alors, je le sais parce que j'ai vu un reportage, donc je les ai vus, ils ne bougent pas. Il n'y a pas une larme, il n'y a rien, il n'y a pas une grimace. Il ne faut pas, parce qu'autrement, c'est la honte de toute
Et
sa vie.
donc donc ils sont piqués par ces
Oui,
fourmis.
voilà. Et ce qui fait qu'après, quand ils sont en forêt et qu'ils se font piquer, ils rigolent, hein, parce qu'on ne se fait pas piquer par une centaine d'insectes d'un coup.
D'accord.
Voilà. Alors moi, j'ai été piqué plusieurs fois. C'est assez douloureux, mais je n'ai pas été piqué par ces fourmis-là. J'ai été piqué par d'autres fourmis, mais c'était pas ça, hein. Voilà. Alors, la première année, c'est les fourmis. La deuxième année, c'est les guêpes. La troisième année, c'est une autre espèce de fourmis. Il y a sept espèces d'insectes. Et le dernier maraquet, ils ont une espèce d'anaconda en vannerie avec les sept insectes différents. Et on leur impose les sept insectes. Mais la cérémonie n'est toujours pas finie. Parce qu'après. Alors avant la cérémonie, ils ont construit une espèce de carbet à la sortie du village où ils ont installé leur hamac. Et donc, après l'imposition des insectes, ils vont dans le carbet, s'installer dans le hamac pendant une semaine sans manger ni boire.
D'accord.
Ce qui fait qu'après, quand ils vont en forêt, s'ils n'ont pas d'eau, bah, ça ne les dérange pas. S'ils n'ont pas à manger, ça ne les dérange pas. S'ils se font piquer, ils rigolent. Alors que nous, on crie et qu'on pleure parce qu'on n'a pas d'eau. Voilà. Voilà.
Donc, c'est une manière de se conditionner
Oui.
pour pouvoir déjà ne pas avoir peur de la forêt pour le coup, et puis de pouvoir survivre aussi
Dans des
dans
conditions
des
hostiles,
conditions
quoi.
hostiles.
Oui. Alors, eux, ils disent ça parce que je me rappelle, moi, il y a un des guides, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai soif. Et puis lui il me disait, bah, moi j'ai pas soif. Voilà. Et parce que quand on part en forêt, moi je buvais à peu près 6 litres d'eau par jour. Donc on ne se trimballe pas avec 6 litres d'eau derrière, parce que ça fait 6 kilos. Et on a déjà 14 kilos de bagages, donc ce n'est pas possible. Donc on a des filtres, et puis à chaque rivière, on remplit les bouteilles. Mais des fois, on ne trouvait pas la rivière. Ouais. Donc voilà.
Et donc ces rituels-là, donc vous le dites, c'est sur 7 ans.
Non. Non, non, ils peuvent le passer sept fois.
D'accord.
Ils sont pas obligés, ils le passent au moins une fois. Après, moi, j'ai connu personne qui l'avait passé sept fois, j'en ai connu qui l'ont passé quatre fois. Voilà.
Et donc cela marque aussi probablement une période dans sa vie,
Alors,
un
oui.
accéder à un autre statut.
Oui, alors c'est à la sortie de l'adolescence normalement, et après on fait la différence entre ceux qui ont passé le maraquet et ceux qui ne l'ont pas passé. Et comme le dernier a eu lieu en 2005, bah, ça fait 20 ans, et bah, il y a toute une génération qui ne l'a pas passé. Et c'est vrai que même moi, je demandais aux anciens, tu as passé ton maraquet combien de fois? Voilà, donc il y en a qui m'ont dit, je l'ai passé quatre fois. Ah, et j'ai rencontré là-bas, pas n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez vu Un Indien dans la ville, le film qui raconte l'histoire d'un Indien qui arrive à Paris. Et il s'appelle Mimi Sékou. Eh bien, moi, j'ai rencontré le vrai Mimi Sékou, pas celui du film, hein, mais
D'accord.
le vrai qui a donné son prénom, en fait.
Qui a inspiré
Oui,
le film.
le film, oui, voilà.
D'accord.
Eh bien, je l'ai connu, le vrai Mimi Sékou. Voilà, c'était une petite parenthèse, parce que je suis assez fier.
D'accord. Et qui avait un...
Alors lui, il a passé plusieurs fois.
D'accord.
Bon, il a entre 80 et 85 ans, il ne connaît pas son âge. C'est le vanier, c'est lui aussi qui a fait l'arc qu'on a vu tout à l'heure avec les flèches. Et c'est lui qui a fait toutes les vanneries qui sont là-bas sur le mur. C'est le dernier grand vanier Wayana, parce que tous les hommes savent faire des vanneries, ça c'est pas un problème, mais ils ne savent pas tous les motifs. Parce qu'il faut connaître les motifs et il faut être capable de les reproduire. Et il n'y a que lui qui connaît tous les motifs. Voilà, ben ça, c'est lui aussi qui l'a fait.
Qui sont des motifs.
Donc ça, ce sont des tamis pour tamiser le manioc. Alors, il y en a des petits quand on part en expédition. Et autrement, à la maison, ils en ont qui font quatre fois cette taille-là, quoi.
D'accord.
Ça, c'est des tamis de voyage.
Tous les objets qui sont ici sont des objets Wayana.
Non, pas tous. Ça, c'est une tapisserie. Là, oui, par exemple, c'est une vannerie aussi. Alors, c'est pas Mimi Sicou qui l'a faite. C'était le voisin de l'école. Ça s'appelle une couleuvre. Et à l'intérieur, donc, c'est une espèce de tube qui fait dans les 1,20 m de hauteur. À l'intérieur, ils mettent la purée de manioc. Et ensuite, ils tirent des deux côtés avec un système de pierre. Pour peser sur le. Ils suspendent la couleuvre et puis ils tirent en dessous avec des pierres et ça va presser la purée. Il y a un liquide qui va sortir et c'est très important parce que dans ce liquide, il y a le cyanure qui est contenu dans le manioc.
Dans le manioc.
Et si c'est mal fait, on meurt. Et il y a déjà eu des morts à
Oui,
côté du liquide.
rappelons-le, le manioc qui est la base, pour le coup,
De leur.
alimentaire de
Oui.
leur alimentation et qui demande, du coup, une transformation.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous parler du manioc pour les personnes les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas?
Alors, le manioc, c'est un tubercule. Donc, ils ont différents maniocs. Il y a du manioc pour faire une espèce, le couac, c'est une espèce de semoule, comme le couscous. Il y a du manioc pour faire le cachiri, qui est un alcool de manioc, qui est leur alcool. Et puis, qu'est-ce qu'ils font encore avec le manioc? Ils font le pain. Alors, le pain, ce n'est pas vraiment du pain, c'est une espèce de grosse galette qui ferait un centimètre et demi d'épaisseur et qui fait presque 1 mètre de diamètre. Et ils ont des galetières comme nous, hein, mais énormes. Et donc, ils mangent du manioc absolument tous les jours. Donc, par exemple, le pain de manioc, il peut se conserver plusieurs jours. Donc, quand ils partent à la chasse, ils partent plusieurs jours, ils peuvent partir une semaine. Ils emmènent des touques, c'est une espèce de réservoirs de bateaux dans lesquels ils mettent leurs réserves de manioc. Et par contre, ils chassent ou ils pêchent. Voilà. Et l'alcool de manioc, donc le cachiri, ils le préparent pour les fêtes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème du pays amérindien, c'est l'alcool occidental, la bière, le rhum, parce que ça ne se prépare pas, ça s'achète. Et qu'ils peuvent le boire n'importe quand. Alors que le cachiri, il faut le préparer, ça met plusieurs jours à être préparé, et on ne le prépare pas comme ça, on le prépare pour une occasion. Et on ne boit pas du cachiri tout seul, on le boit ensemble, ça se partage. Alors que la bière, ils peuvent la boire, en fait, ils vont boire la bière comme nous, on boit de l'eau. Voilà. Et donc, ils vont être rapidement sous l'emprise de l'alcool.
Pour revenir à la préparation du manioc,
Oui.
Qui peut du coup,
Ah oui.
qui demande un certain savoir-faire.
Alors, bon, ils épluchent le manioc. Ensuite, ils vont le râper. Et après, ils vont le passer dans les fameux tamis avec de l'eau, donc qu'ils vont chercher dans le fleuve. Ils passent l'eau, donc ça va faire une espèce de purée qu'ils vont mettre dans la couleuvre. Et ensuite, ils vont laisser. Alors, ça va rester plusieurs heures hein, pour bien faire sortir le cyanure. Et ils vont sortir un pain qui a. Alors, c'est assez marrant parce que ça a la forme d'un obus. On croirait vraiment un
D'accord.
obus, mais en manioc. Et à partir de cet obus, soit ils vont faire du couac, donc de la semoule, soit ils vont fabriquer la galette, soit ils vont fabriquer le cachiri. Voilà.
Donc, tout un travail qui doit prendre un peu de temps, pour le coup.
Oui, et qui se programme. C'est-à-dire, on ne se dit pas, à midi, on va manger du manioc, je vais aller chercher un tubercule. Ça se fait sur plusieurs jours. Et ça se fait à plusieurs. Alors ça, c'est le travail des femmes. Donc, y a plusieurs générations. Il y a la grand-mère, la mère, la petite fille. Et tout le monde se met à éplucher. Voilà, ce n'est pas le travail des hommes. C'est très genré, les activités. La vannerie, c'est les hommes. La poterie, c'est les femmes. La chasse. C'est les hommes, la pêche, c'est les hommes et les femmes. C'est là, je crois, la seule activité qui est partagée. Voilà. Et des fois, par exemple, on assiste à des scènes, quand ils reviennent de l'abatis, c'est la femme qui porte. L'homme, il marche à côté, il ne porte rien. Et moi, je me rappelle, au début, il y avait une femme enceinte, elle avait un ventre, et elle portait le manioc sur son dos, mais il y a peut-être 20 ou 30 kilos de manioc. Hein. Et moi, j'étais gêné. Je dis, je vais aller l'aider. Puis à côté, il y avait le mari qui portait rien. Alors, pourquoi le mari ne porte rien? Et ben parce qu'il a le fusil. Si jamais il y a un jaguar.
Ah,
Voilà. Bon, sauf que maintenant, avec des villages de 300 personnes, il n'y a plus de jaguar.
d'accord.
Enfin, ça arrive encore qu'il y ait des jaguars qui rentrent, mais c'est très très rare. Voilà.
Vous portez là un collier.
Trois colliers.
Trois colliers, ce sont des colliers.
Alors, ce sont des colliers Wayana que je porte tout le temps. Donc, le plus simple, celui-là, c'est une grand-mère qui me l'a fait. Alors, je ne sais pas quel âge elle a, mais elle est toute voûtée, toute ridée. Elle marche avec un bâton. Elle ne porte pas de lunettes. Et donc, c'est quand même des perles assez fines. Ça, c'est sa fille. Donc, c'est la mère qui a rajouté des graines. Et puis, ça, c'est le collier du père. Alors, ce n'est pas lui qui l'a fait. Et donc, tous les trois, ils me les ont donnés quand je suis parti, quoi. Parce que j'étais très ami avec une des familles. Et donc, ils m'ont
Ce
donné
sont des
chacun leur
très beaux
collier.
colliers, très colorés,
Ouais.
pour le coup, multiples couleurs, vert, jaune, rouge, blanc, bleu.
Oui. Il y a beaucoup de bleu, blanc, rouge parce qu'en fait, dans les colliers rituels, là, si on regarde les colliers rituels, ils sont bleu, blanc et rouge. Parce qu'en fait,
Il y a une relation.
tout à fait. C'est-à-dire que quand les Français arrivaient avec des perles, ils amenaient des perles bleu, blanc, rouge. Donc, ils ont intégré le bleu, blanc, rouge dans leur costume. Voilà. Ben là, regardez, ça c'est les pagnes en perles, ils sont bleu, blanc, rouge.
Donc c'était pour les perles notamment
Oui, c'était
qui
pour
était
les
là.
perles, oui. Parce qu'avant c'était en tissu, oui.
Ce qui n'est pas le cas par exemple de la coiffe qui est faite vraiment de plumes pour le
Ouais.
coup,
Alors,
assez magnifique.
elle est magnifique, et puis surtout, elle a un symbole hallucinant, parce que il y a un livre qui a été écrit là sur la coiffe holoque du Maraquais. Alors, il n'est pas encore sorti, mais j'ai eu l'occasion de le lire parce que j'ai fait la correction. C'est une charge symbolique qui est hallucinante, quoi. C'est un cadeau qui a aucune valeur équivalente ici, quoi. Moi, je pouvais rien offrir en échange. J'étais assez
Cette
gêné quand ils me l'ont offert. Hein.
coiffe, ils vous l'ont offert
Oui.
à quelle occasion?
Ben, un jour, tout au lit là qu'on voit en photo, il m'a téléphoné, il me dit, je t'apporte un cadeau. Et je le vois descendre de la pirogue avec la coiffe. Alors sans les plumes, hein, il n'y avait pas les plumes, parce que les plumes, elles sont rangées dans une boîte. Et j'étais très gêné parce que c'est un cadeau extraordinaire. Et donc je lui ai dit, bah, écoute, ce que je ferai, c'est que quand je serai très très vieux, je te le renverrai pour que tu puisses le donner à tes enfants. Parce qu'il faut que ce soit pour tes enfants. Et actuellement, il y a son fils, enfin un de ses fils qui vit chez moi, là, parce qu'il va au lycée à Dinan. Et je lui disais, bah, quand tu passeras ton Maraquais, si tu as besoin de plumes, je te prêterai mes plumes. En fait, c'est leurs plumes.
C'est un très beau, une très belle coiffe avec des plumes de hara. C'est ça,
Entre
le.
autres, ouais, hara, aigle, le tour, là, je sais que c'est le coq. Il y a du holoque, il y a du cacique, il y a une douzaine d'oiseaux. Ouais.
Dans la chasse,
Ouais.
du coup, l'alimentation, c'est quoi chez les Wayana? Il y a beaucoup de poissons?
Alors, en numéro un, ce sont les poissons, avec un problème terrible depuis que les orpailleurs sont arrivés. C'est-à-dire que dans toute la Guyane, il y a 8 500 Amérindiens, si on compte toutes les ethnies. Il y a 12 000 orpailleurs clandestins qui vivent essentiellement dans la zone de chasse des Wayampi et des Wayana. Ils mangent la même chose, et ils mangent les mêmes poissons. Et quand ils cherchent l'or, ils utilisent le mercure. Le mercure, il va dans les rivières, il est mangé par les poissons. Et les Wayana mangent les poissons avec le mercure. Et donc maintenant, ils n'ont plus le droit de manger certains poissons parce que c'est dangereux pour eux. Alors, c'est dans les écoles qu'ils s'en sont rendus compte parce que les élèves avaient des retards pas possibles, ils avaient des problèmes. Et donc, on s'est rendu compte qu'ils avaient un taux de mercure élevé. Parce que jusqu'à l'âge de 7 ans, quand on absorbe du mercure, il va directement dans le cerveau. Après, on a des problèmes de peau ou des problèmes de vision, mais on n'a pas de problème grave, quoi. Et donc, ça, c'est pour les Wayana. Par contre, c'est difficile parce qu'un Wayana qui est pauvre, eh ben, il mange que du poisson. Celui qui est un peu plus riche, il peut s'acheter un fusil ou s'acheter des cartouches, parce qu'il y en a qui ont des fusils, mais n'ont pas de cartouches. Donc, ils ne peuvent pas chasser. Et donc, ceux qui vont pouvoir chasser, ben, n'auront pas le mercure. Et alors, c'est des chasseurs extraordinaires, parce que, par exemple, Touholi, là, qu'on voit en photo, lui, il chasse la nuit.
Ah oui.
Il part en forêt la nuit pour chasser.
Pleine ouais. nuit et la capacité à voir
oui.
Et à se.
C'est lui le fils du chaman là, qui souffle sur qui avait soufflé sur le bébé là qui pleurait et lui il a pas beaucoup d'argent donc une cartouche c'est un animal il rate jamais alors qu'il y en a qui peuvent tirer deux trois coups lui il tire un coup il fait mouche à chaque fois ouais. Et alors je me rappelle une fois on avait fait une expédition. J'étais mort, là. La fameuse expédition à la Mamilipane. On arrive, ils montent le camp. Moi, j'étais assis, je ne pouvais plus rien faire, donc ils montent le camp. Et puis, je dis, ben, moi, je mets mon hamac, je me couche, hein, et puis à demain. Et puis, lui, il dit, eh ben, je vais à la chasse, je reviens. Et il part en courant. Mais on était près de la rivière, donc il fallait monter sur le plateau. Et puis, genre, une demi-heure après, il revient avec un sanglier, comme Astérix, là, sur les épaules. Sauf qu'il revient avec un sanglier, genre il était 18h, mais il a fallu le préparer, le sanglier. Et donc jusqu'à 4h du matin, il a travaillé sur le sanglier, parce qu'il a fallu le boucaner. Parce qu'on était en forêt, on repartait le lendemain. On ne restait pas. Et donc il a travaillé jusqu'à 4h et on partait à 6h. Voilà, et moi j'étais couché dans mon hamac, j'avais honte.
D'où l'importance de la cérémonie.
Oui, voilà. Alors le gibier, c'est d'abord en un, c'est les poissons, et après c'est le gibier, ils vont chasser de plus en plus loin parce que, donc comme ils sont sédentaires maintenant, ben, ils sont de plus en plus nombreux. Et puis il y a la concurrence avec les orpailleurs qui ont eux-mêmes leurs chasseurs. Voilà.
Ce sont des sangliers, des singes, vous parliez
alors,
tout
des
à l'heure.
Des singes, oui. Alors, ça dépend des époques. Par exemple, le singe à tel, c'est au mois de juin, parce qu'il est plus gras. Donc, il y a des périodes pour chaque animal. Alors, soit ils partent tout seuls, mais ça, c'est quand ils vont chasser pour eux, quoi. Mais autrement, ils peuvent monter une expédition et partir plusieurs jours. Donc là, ils partent à 4 ou 5. En pirogue, ils vont assez loin, dans une zone de chasse où il n'y a personne. Et puis là, ils vont chasser, et puis ils vont boucaner tout de suite, parce que, à cause de la chaleur. Et ils vont fabriquer ce qu'on appelle des catouris. Catouris, c'est l'équivalent du sac à dos de chez Decathlon,
D'accord.
dans lequel ils vont mettre le gibier. Mais ils ne le fabriquent pas avant, ils le fabriquent, et pour chaque gibier, ils vont fabriquer le catouris. Voilà. Et ils vont ramener tout ça au village, donc ils peuvent avoir plusieurs kilos de viande. Qui vont distribuer à la famille et aux voisins et vendre à l'instituteur.
D'accord.
Voilà, c'est un des meilleurs clients.
La viande boucanée, est-ce que vous pourriez nous rappeler?
Et ben en fait, ils font. C'est comme une espèce de barbecue, sauf que ça cuit pendant des heures et c'est la fumée qui va. Enfin, c'est fumé. Ouais,
C'est
voilà.
d'accord, c'est la viande fumée.
C'est de la viande fumée, mais qui est fumée en quelques heures. Parce que je crois que nous, nos ancêtres, ils mettaient dans la cheminée pendant plusieurs mois. Là, il faut qu'en une nuit, ce soit fait, quoi. Et ils boucanent aussi le poisson. Voilà. Et donc, ça leur permet d'avoir la nourriture pour plusieurs jours. Et s'ils veulent avancer, de ne pas chasser tout le temps.
Oui, parce que la conservation en pleine jungle, en pleine forêt
Ouais.
amazonienne, je ne sais pas si c'est de la jungle d'ailleurs, mais forêt amazonienne,
Oui.
la conservation
C'est
est
délicat.
délicate.
Oui. Alors, donc ils chassent, ils ont leur réserve de nourriture. Et puis, quand c'est avec moi, c'est un petit peu différent parce que, par exemple, le petit déjeuner, c'est forcément à la française. Donc, c'est du chocolat au lait avec du pain. Et puis, alors, bon, le pain, il se conserve pas longtemps. Donc, au bout de quelques jours, donc j'ai des biscottes. Et puis une fois, je me rappelle, il y avait des enfants, donc on avait amené des pains au chocolat. Et c'est-à-dire, la première expédition, mon frère et moi, on mangeait à la française, et puis eux, en fait, ils mangeaient poisson au petit déjeuner. Donc ils nous regardaient, donc ils ont pris le petit déjeuner à la française. La deuxième expédition, tout le monde prenait du petit déjeuner à la française. Et puis une fois, on est parti en expédition, et il y avait tellement d'eau. Qu'on n'a pas pu continuer de monter le fleuve. On a été obligé de s'arrêter dans un village, Wayana, au Suriname. Et on est resté une semaine dans ce village. Et là, tout le village a pris le petit déjeuner à la française pendant 2 jours. Donc après, il n'y avait plus. Hein.
Ça
Mais j'ai
changeait
fait des émules. Hein.
des habitudes pour le
Oui.
coup.
J'ai fait aussi un caïman à la française.
un caïman à la française. Ouais. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire ce que ça, en quoi cela consiste? On trouve peu à Bécherel ou à Longolnais du caïman.
Alors, normalement, nous, on n'a pas le droit d'en manger. Quand on est là-bas, il n'y a que les Wayana qui ont le droit de manger du caïman. Nous, on n'a pas le droit. Ils ont le droit de le chasser que pour eux. Voilà. Bon, moi, ils m'avaient donné un caïman, donc je l'avais préparé. Eux, ils le préparent au courbouillon ou ils le grillent. Et moi, en fait, je l'avais fait macérer toute une nuit dans du citron. Et puis, j'ai rajouté des herbes aromatiques parce que, en fait, même si je vivais dans la jungle, j'avais absolument tout, comme ici. Hein. J'arrivais de Cayenne en avion avec toutes mes réserves de nourriture pour plusieurs mois. Donc, tout ce qui se conserve, hein, évidemment, c'était en conserve. Et donc, j'avais fait ce caïman, ben, je dirais, à la française, quoi, mariné dans du citron avec des pommes de terre. Et il se trouve qu'il y a des Wayana qui sont passés me voir. Alors, je leur ai proposé de goûter et ils ont bien aimé. en Guyane, il y a les Wayampi, ils vivent à la frontière brésilienne. Ils parlent le Wayampi, ça n'a rien à voir avec le Wayana, ils ne se comprennent pas. Mais ils ont une culture un peu similaire. Ils ont aussi un maraquet, mais qui est beaucoup plus facile. Ils se préparent en une semaine. Donc, leur maraquet existe toujours. Les lycéens, ils peuvent, pendant les vacances de Pâques, ils peuvent préparer un maraquet. D'accord. Après, les Teco, c'est une autre ethnie qui vit uniquement dans le centre de la Guyane. Il y a les Wayana qui vivent en amont du Maroni, avec les Apalaïs. Donc, les Apalaïs, c'est encore une autre ethnie. Alors, il y en a très peu en Guyane. Il en reste 40. Mais il y en a encore au Brésil. Mmh. Et puis, si on descend sur la côte, il y a les Kalinia, qui sont les Amérindiens les plus intégrés. Là, on va trouver des personnes qui font des études supérieures. Ils sont, complètement intégrés. Et puis, il y a les Oyarikoulés. Alors, les Oyarikoulés, ils vivent à la frontière entre le Suriname, la Guyane et le Brésil. Mmh. Et eux ce sont des Amérindiens qui refusent tout contact avec les Blancs et avec les Amérindiens.
Avec les autres
Amérindiens. Et les autres Amérindiens en ont peur, parce qu'ils ont la réputation d'être anthropophages. Bon, ils ont déjà mangé, ça on le sait, des hommes. Voilà. Et donc, ils vivent cachés par là-bas, donc on ne les voit plus. La dernière fois qu'ils ont été vus, c'était dans les années 70. Mmh. Il y a eu André Cogna, qui voulait absolument les rencontrer, et qui est donc allé traîner là-bas, et qui a utilisé une stratégie d'approche. Quand on veut approcher un groupe amérindien, en fait, on met des cadeaux. On repère les endroits où ils passent, et on met des cadeaux, et on fait du bruit. On fait du bruit pour que les autres ils sachent qu'on est là et qu'on sait qu'on fait du bruit et qu'on n'a pas peur. Donc après, il vient de voir, puis il trouve les cadeaux. Et donc, comme ça, il a pu les rencontrer, il a passé quelques jours avec eux. Et ensuite, les évangélistes sont aussi allés là-bas pour les évangéliser. Alors, ils n'ont pas réussi, mais ils en ont enlevé, je ne sais plus si c'est 3 ou 7, qu'ils ont ramené dans un village Wayana qui s'appelle Elae. Alors au début, les Wayana n'étaient pas contents parce que ça faisait des hommes en plus dans le village. Jusqu'au jour où ils sont allés chasser. Et donc ils partent en forêt chasser. Là, les Wayana ne leur disent absolument pas leur zone de chasse, rien du tout. Et quand ils sont revenus le soir, eh ben, les Oyarikoulés, ils avaient rapporté beaucoup plus de gibier que les Wayana. Et en fait, aujourd'hui, les Wayana, quand ils parlent des Oyarikoulés, ils disent, eux, c'est des vrais Amérindiens. C'est les hommes de la forêt, quoi. Nous, on n'est plus des hommes de la forêt. Ah, et c'est troublant parce que les Kalinia qui parlent des Wayana, ils disent la même chose. Ils disent, eux, c'est des hommes de la forêt. Nous, on ne sait plus faire tout ça.